Père Jacques Servais, votre nom est associé au fait que vous êtes jésuite. Vous avez été professeur de spiritualité à la Grégorienne, ici à Rome, et votre nom, Jacques Servais, est aussi associé à deux grands théologiens, Henri de Lubac et Hans Urs von Balthasar. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre, voire même aussi votre admiration pour ces deux théologiens et comment ils ont été un peu à l'origine de beaucoup de vos projets?
J'ai surtout un souvenir très vivant du père de Lubac. Le père de Lubac venait souvent chez nous en Belgique, je suis belge, et nous avons ainsi eu l'occasion de nous rencontrer et faire de petites promenades. Il aimait se promener, donc c'était devenu presque un ami, c'était un maître, disons, d'abord.
Donc vous avez d'abord rencontré le cardinal de Lubac,
oui,
qui n'était pas cardinal.
Oui, à partir de 1973, moi je suis entré à la compagnie en 67, et donc... En fait, j'étais encore tout jeune dans la compagnie. Et puis, peu après, je suis allé à Heidelberg, en Allemagne, et j'ai continué mes études de psychologie. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Balthasar. J'ai rencontré pour la première fois le père Balthasar. C'était sur le Rigi, une maison, un chalet sur une montagne qui s'appelle le Rigi, au-dessus du lac des Quatre Cantons, où le père Balthasar recevait des amis, dont le père de Lubac et d'autres théologiens. Et il m'a invité à y là pour aider à faire la cuisine. Mais en fait, il y avait une petite communauté très, très fraternelle. Et donc, j'ai été en contact avec ces théologiens. Également, bien des noms sont venus que je ne connaissais pas, mais que je rencontrais au fil de la conversation. Armogat, Marion, ceux qui ont fondé la Communio. Et puis, bien sûr, Ratzinger, qui était certainement quelqu'un que tant Balthasar que de Lubac appréciaient énormément.
Est-ce que vous avez rencontré déjà là Joseph Ratzinger?
Non, je l'ai rencontré plus avant, parce qu'en fait, en 85, le général de la compagnie m'a envoyé à Rome pour collaborer avec Ratzinger pour la doctrine de la foi. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai en fait collaboré avec beaucoup d'intérêt à cette œuvre-là. Le cardinal Ratzinger restait un théologien et en fait, il m'a appris beaucoup plus peut-être que je l'avais appris durant ma théologie à Namur et à Bruxelles.
Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu des premières œuvres de Balthasar qui vous ont fait entrer dans la théologie, dans sa théologie?
Un livre qui nous a beaucoup marqué, je dis nous, le père de Lubac et moi, parce que nous nous trouvions ensemble sur le Rio au même moment, c'est catholique. Un petit livre que le père Balthasar a offert en 75 au père de Lubac, justement pour célébrer son anniversaire. Et alors je me suis mis aussitôt à le traduire et en fait c'est un petit bijou. Et puis après j'ai continué à traduire les petites choses, un peu la théodramatique, etc. Mais en fait mon entrée dans l'œuvre de Balthasar, c'était plutôt à travers Adrien von Speer. Et en fait, je me suis rendu compte que connaissant bien Adrien von Speer, je me repérais assez facilement dans les œuvres de Hans Urs von Balthasar.
Alors revenons à l'association Balthasar, vous, Jacques Servais, et puis il y a dans les années 89 un projet qui arrive, qu'on appelle aujourd'hui la Casa Balthasar. Comment est venu ce projet ?
En réalité, quand j'étais à la doctrine de la foi, le cardinal Ratzinger me demandait de l'aider à répondre à certaines lettres personnelles qui venaient de jeunes novices ou des jeunes qui cherchaient leur voie. Et il a vu que j'avais un certain intérêt dans ce domaine-là. Et surtout, j'ai su après coup que le père Balthasar et lui avaient fait un projet de maison de formation, estimant l'un et l'autre que les maisons actuelles ne conviennent pas, ne sont pas adaptées à la requête des jeunes. Et donc, à un moment donné, il m'a demandé si j'étais prêt à ouvrir une maison de formation pour des jeunes candidats.
Joseph Ratzinger,
oui. Et alors, je lui ai dit que j'étais jésuite et que je dépendais de mon général, et que si le général m'envoyait, je le ferais volontiers. Et donc, Ratzinger est allé trouver le père Kolbenbach, qui m'a détaché pour cette œuvre, qui a donc commencé en 90. Et pour donner une assise à cette œuvre, nous avons constitué une association dont on fait partie dès le départ des amis de Ratzinger, des amis au fond de Lubac et de Balthasar. Balthasar était mort, bien sûr, de Lubac pas encore, il était déjà très infirme, mais c'est Ratzinger lui-même qui a désiré que l'association porte son nom. Et ainsi nous sommes mis ensemble et nous avons régulièrement, chaque année en fait, consacré une semaine entière à une réflexion sur ce qu'était la pédagogie adaptée à la formation de jeunes. Et le cardinal Ratzinger est venu pratiquement chaque année, il est venu passer une journée avec nous de travail.
Au cours de ces semaines de réflexion, il y a certainement des points que vous avez retenus, dont a parlé Joseph Ratzinger. Est-ce que vous pouvez nous en faire part?
Oui, certes, un point important est la liturgie. Vous savez sans doute que pour nous, jésuites, la liturgie n'est pas un point fort. Nous avons ainsi trouvé beaucoup d'inspiration, non seulement dans ses paroles, mais également après dans ses livres. On a essayé aussi d'élaborer une liturgie dans la maison qui soit classique, pas la liturgie ancienne, mais en même temps une liturgie qui puisse être bien accueillie par des jeunes qui venaient de toutes les nations.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions dont vous vous souvenez bien?
Oui, certainement. L'enseignement, dès la troisième année, en voyant que, en réalité, nos jeunes ne recevaient dans les universités de Rome qu'un enseignement très strictement théologique et ecclésiastique, dans le désir d'ouvrir un peu leur horizon dans le sens d'un humanisme chrétien, nous avons réfléchi avec Ratzinger sur la façon de donner justement un enseignement qui ouvre le plus possible toutes les perspectives. Il nous a encouragés à chercher de nouvelles voies également dans le sens de la littérature qui peut être également une voie vers une authentique théologie. Également la musique, plusieurs fois nous avons donné des concerts dans la maison, également pour Ratzinger, on a donné la flûte enchantée, on a réfléchi aussi sur la façon de comprendre la musique, en particulier du Mozart. Et puis le théâtre, chaque été, nous avons fait des sessions également une fois avec lui. En tout cas, il est passé pendant une journée dans ce couvent de Retz, qui est un couvent dominicain que vous connaissez sans doute. Donc on a pris des thèmes comme le grand théâtre du monde de Karl de la Borca, ou bien Hofmannsthal, ou bien Shakespeare, dans le but de montrer comment la question de l'homme, mais aussi les réponses que des romanciers ou des dramaturges proposent, ouvre l'horizon d'une théologie vivante, où la foi, mais aussi la raison s'unissent.
Et cette perspective est tout à fait en accord avec celle de Balthazar.
Oui, cette perspective est bien sûr au cœur même de la théologie de Balthazar, qui voulait une théologie à genoux, qui voulait une théologie qui d'abord commence par un moment contemplatif, qui ne termine pas par là, une théologie qui est aussi dans l'engagement de Dieu, et donc qui finalement pénètre profondément le monde, mais qui commence par cette réceptivité de fond, une réceptivité qui demande aussi de mettre au centre la parole de Dieu.
Quand on a eu la chance dans sa vie de rencontrer deux grands théologiens de cette envergure, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui vous nourrit aujourd'hui, Père Jacques Servet?
Balthazar est un visionnaire, et ça je l'ai vu expérimenter sur le Righi. Balthazar aimait faire des puzzles et il avait un don extraordinaire, un homme qui voit la figure et à l'intérieur de cette figure peut situer chaque élément particulier. Chez Ratzinger, ce qui m'a toujours très impressionné, c'est sa capacité d'ouvrir une fresque historique de laquelle néanmoins se détache une vision théologique très profonde. Et puis sa grande simplicité dans les rapports, son sens de la collaboration, une écoute. Au fond, quand on lui parlait, on comprenait mieux après coup sa propre question parce qu'il vous la redonnait de façon extrêmement claire.
Quand avez-vous rencontré pour la dernière fois le pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger?
Donc, une fois qu'il a été élu pape, je croyais que je devais abandonner la direction de la Casa Balthazar. Et au contraire, il m'a invité à continuer cette œuvre. Donc, il y a eu cette audience au moment de son élection. Et puis après, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, en tout cas une fois, lors d'une réunion de la Communio, où il est venu spontanément me parler, également de la Casa Balthazar. Et puis après, je n'ai plus cherché à le voir, parce qu'il a certainement bien des personnes plus importantes que moi à rencontrer.
Père Jacques Servet, pour terminer, quand vous êtes un témoin privilégié de tout ce que nous sommes en train de vivre au cœur de l'Église ces dernières semaines, pouvez-vous nous donner une parole?
Oui, ce qui me frappe chez le pape Benoît XVI, c'est combien dans son magistère, il a touché bien des points qui sont au fond des points centraux également de la théologie de Balthazar, mais aussi Adrienne von Sperg, vis-à-vis de laquelle au départ je sentais une sorte d'interrogation, comme du reste chez de Lubac. Mais au fond, les saints, par exemple, la Trinité, mais aussi le Samedi Saint, sont devenus des thèmes tout à fait clairs de son enseignement magistériel. Prenons ce dernier point, qui est un point toujours très discuté, n'est-ce pas? Au fond, nous pourrions songer à l'encyclique Deus Caritas Est, où le pape a utilisé une expression qui avait étonné ses collaborateurs, j'en ai été le témoin, « Dieu se retourne contre lui-même ». Une expression audacieuse qu'on ne peut comprendre, à mon avis, qu'à l'intérieur d'une trinité d'amour où le rapport est tellement fort qu'il permet aussi cette espèce de retournement grâce auquel les pécheurs peuvent être comme inclus, s'ils le veulent, dans cette espérance de rédemption du monde.